La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis durent depuis un an et demi et elles en viennent à prendre des formes inédites.
Et oui, ces négociations sur un introuvable accord douanier entre Washington et Pékin, c'est l'un des feuilletons internationaux les plus prolifiques de ces 18 derniers mois. Figurez-vous, comme nous l'annonce le Financial Times, qu'un nouveau round de discussion, le 13e, doit se dérouler cette semaine. Le Premier ministre chinois en personne doit arriver demain à Washington et, comme par hasard, on assiste depuis quelques jours à un nouveau coup de chaud préliminaire entre les deux superpuissances. Sans surprise non plus, ce sont les Américains qui la mettent, cette pression, par deux types de sanctions imposées lundi et mardi à la Chine. Officiellement, c'est en lien avec une question d'ordre politique et des plus légitimes. L'administration Trump a décidé de sanctionner l'Empire du Milieu pour la répression à grande échelle qui est menée contre les minorités musulmanes en Chine, à commencer par les Ouïghours, dont nous parlons régulièrement ici même.
On peut reconnaître aux Américains le mérite d'être à peu près les seuls à se préoccuper du sort de ces millions de personnes internées dans des camps de rééducation politique, culturelle et religieuse.
C'est vrai, mais pour autant, complète le Financial Times, il serait naïf de penser que tout cela se fait sans arrière-pensée commerciale de la part des États-Unis. Hier donc, développe le South China Morning Post, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé qu'il instaurait des restrictions de visa pour des officiels du gouvernement chinois considérés comme responsables ou complices de l'élimination brutale des minorités ouïghours, mais aussi kazakhs et plus largement musulmanes dans l'extrême ouest du pays. Et la veille, le département américain au commerce dévoilait, lui, la liste des entreprises et administrations chinoises inscrites sur une liste noire, désormais interdite d'importer du matériel américain. On est là dans un deuxième volet, plus économique, et Leijian Nikkei Review note qu'il vise tout particulièrement le secteur de la surveillance électronique, de l'intelligence artificielle, des technologies de pointe au service du Big Brother chinois, qui serait particulièrement utilisé pour surveiller et réprimer donc les minorités musulmanes. Mais là encore, la revue asiatique subodore un autre but poursuivi par les Américains, celui d'empêcher, ou bien de tenter en tout cas d'empêcher la Chine de devenir le leader mondial dans ce secteur ultra prometteur de l'intelligence artificielle. Mais c'est peine perdue, selon Leijian Nikkei Review, la Chine a déjà trop d'avance en la matière et ce n'est pas sans lien avec le fait, nous dit-on, qu'elle teste ses technologies sur son propre peuple depuis des années.
On parlait en introduction des formes inédites que prennent les tensions Chine-États-Unis. Elle s'applique même désormais au basketball professionnel.
Et oui, la diplomatie entre les deux géants mondiaux passe aussi par la NBA, la National Basketball Association, la ligue la plus célèbre au monde, dont les matchs sont à la télévision suivis par 800 millions de fans chinois. La NBA qui génère également des milliards de dollars de profit à travers la planète. La NBA donc se retrouve depuis deux jours officiellement censurée en Chine parce qu'un responsable de l'équipe des Houston Rockets a osé tweeter sur son compte personnel un message de soutien aux manifestants de Hong Kong. Un seul tweet qui rend Pékin furieux au point de censurer donc toutes les retransmissions et les matchs de gala qui devaient se jouer en Chine. La réaction est clairement hystérique selon Holman Jenkins dans le Wall Street Journal pour qui la NBA, avec la popularité de ses joueurs vedettes et sa force de frappe économique, aurait pourtant le poids suffisant pour faire plier la Chine si elle décidait de jouer à fond ce rôle politique très loin de ses intérêts commerciaux. Le basket pour défendre les libertés à Hong Kong. Quand la diplomatie ne fonctionne pas, c'est un beau rêve. Bloomberg veut y croire aussi et se félicite qu'hier, le patron de la Ligue, Adam Silver, ait refusé de s'excuser auprès de Pékin pour préserver son business. On se souvient de la diplomatie du ping-pong qui avait réchauffé les relations diplomatiques entre Chine et États-Unis au début des années 70. De là à proposer d'installer un panier de basket dans la salle des négociations commerciales ces prochains jours à Washington pour détendre l'atmosphère, il n'y a qu'un pas.
Et puis enfin, la renaissance de Notre-Dame de Paris viendra-t-elle du fond d'un lac ghanéen ?
Et moi aussi, ça m'a intrigué, mais c'est une proposition sérieuse débusquée dans la section africaine de la non moins sérieuse BBC. Une société de foresterie du Ghana, la KKTR, se propose donc de vendre à la France les milliers de mètres cubes de bois qui vont être nécessaires à reconstruire la charpente de la cathédrale incendiée. Vous savez, cette forêt, comme on la surnomme, construite au XIIe siècle avec 1300 arbres, des chênes principalement, avec des dimensions qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'est l'un des casse-têtes d'ailleurs de la reconstruction de Notre-Dame, si on veut reconstruire à l'identique en tout cas, où trouver tant de bois avec de telles mensurations. Eh bien, au Ghana, explique la KKTR, et plus précisément au fond du lac Volta. C'est l'une des retenues d'eau les plus vastes au monde, nous dit la BBC. Créée dans les années 60 avec la construction d'un grand barrage hydroélectrique sur le fleuve Volta, des forêts entières ont été immergées sous le réservoir et donc sous l'eau. Aujourd'hui, on trouve une réserve de bois conservée par l'eau et voire même en voie de fossilisation naturelle et donc avec des qualités uniques de résistance. Il suffirait pour en profiter d'aller littéralement à la pêche aux arbres. Le ministère français de la Culture confirme qu'il a reçu le devis. Il y en a tout de même pour 45 millions d'euros. Mais avant de répondre, il faut achever la stabilisation de l'édifice endommagé de Notre-Dame, décider si l'on va reconstruire ou non la charpente à l'identique et donc en bois. Quelle que soit la réponse de Paris, au final, l'offre se veut aussi symbolique, conclut l'agence Africa Feeds. Imaginez que l'Afrique et ses forêts puissent offrir une nouvelle vie à un monument aussi emblématique que Notre-Dame. Avouez que ça aurait une certaine classe.